Bienvenue à Escale 1718 avec Fulgence Plat au micro et Nicolas Fatman à la technique. Voilà, c'est jeudi, donc on va parler du sport avec Myriam Larache qui nous a concocté quelque chose sur le tournoi Roland-Garros à Paris, tennis et le prochain Wimbledon à Londres, un peu d'athlétisme, de soccer, de foot pour les autres. Voilà. Et puis en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Jessie Mill, qui est la co-directrice artistique du Festival Transamérique, pour nous parler de la 16e édition du festival, de ce festival-là, le FTA, Festival Transamérique. C'est la 16e édition. Alors, tout de suite, pour ne pas perdre de temps, Myriam est déjà au bout du fil. Bonjour.
Oui.
Bonjour Myriam.
Bonjour et bon après-midi à tous nos auditeurs, ça va bien ?
Oui, ça va bien, merci. Allez, on y va.
Je
alors.
Je suis là, prête à dégainer.
Oui, voilà, dégaine-nous les dernières nouvelles de Roland-Garros, le prochain Wimbledon, l'athlétisme.
Même, je vais répéter quelques-unes que tu as déjà mentionnées, j'ai pas le choix.
Oui, mais alors, je me suis dit, même si Myriam va en parler, quand même, moi, je...
Je peux parler,
voilà.
Oui, parce que tu es un amateur de tennis, tu nous l'as bien dit cette semaine.
C'est ça.
Tu vois que je vous écoute.
Je sais, merci beaucoup.
Roland Garros, donc on y va.
Oui,
il faut quand même rappeler, les plus grands joueurs de tennis au monde sont là à ce deuxième tournoi du Grand Chelem de l'année. D'ailleurs, ils n'ont pas le choix souvent. Et nos Canadiens aussi. Alors, nos deux Québécois, Leïla Fernandez et Félix Auger-Aliassime, sont déjà du troisième tour. Les deux ont eu un départ difficile, il faut le dire. Je ne sais pas si vous avez vu les matchs. Toi, Fulgence, tu les as vus ?
Oui. Pas le match en entier, mais les résumés.
Les premiers matchs, ils ont tous les deux eu de la difficulté, ils ont failli ne pas passer.
C'est ce que je disais hier. Lui, il faut qu'il ait toujours le dos au mur avant de se relayer.
Oui, ils ont remonté. Elle aussi, d'ailleurs, c'est drôle. Elle a ce pattern, excusez-moi l'anglicisme. Mm-hmm. Alors, tous deux ont remonté la pente. La deuxième ronde a été pour eux tous les deux facile et tous les deux n'ont cédé aucune manche à leur deuxième ronde. Donc bravo, parfait, ils se sont remis sur les rails, c'est excellent. Pour ce qui est de Denis Shapovalov, hélas, il a très vite trébuché au premier tour face au Danois, au jeune Danois de 19 ans, Holger Rune, classé 40e mondial. Il a avoué en salle de presse, j'ai beaucoup de choses sur lesquelles travailler, j'ai pas fini de m'améliorer. Eh ben, il faut se remettre au travail.
C'est Denis qui dit ça ?
Oui, et il faut avouer que Fulgence, il a le problème de Shapovalov actuellement, en tout cas cette année, pour ce que j'ai vu, parce que j'ai presque vu tous ces matchs, c'est que le mental n'y est pas. L'état mental n'y est pas sur le terrain. Il est toujours talentueux, il est toujours formidable, mais son mental le gagne sur ses qualualités. Alors, il se fâche très vite. D'ailleurs, il s'est fâché à l'autre tournoi gravement où il a eu une pénalité.
Il a été hué par le public, d'ailleurs.
Oui, il n'arrive plus à focusser. Donc, et en plus, il s'obstine sur un coup qui est le revers droit des fois, ou le jour où ça ne marche pas. Tu comprends ? Il s'obstine, il continue à le faire, même s'il perd des points. Alors, il faudrait travailler peut-être sur ça et penser, je ne suis pas coach,
Myriam, des
changements.
Mais
oui.
Je ne sais pas, nous ne savons pas ce qu'il vit dans sa vie privée. Hein.
Exact, sa
voilà.
vie privée.
Puis, on ne sait pas.
Mais bon, c'est un gars qui est très expressif, peut-être. Je pense qu'il avait des problèmes de vie privée, il nous l'aurait dit.
Oui.
Alors, ce n'est pas un gars très renfermé, hein. Il exprime beaucoup, d'ailleurs, sa façon de jouer aussi, sa façon de penser, sa façon de réagir.
Oui.
Mais bon, je pense qu'il est jeune, puis dans une phase où la concentration et le focus ne sont pas là. Alors on passe à Bianca Andreescu. Elle s'est inclinée au deuxième tour face à la médaille d'or, la Suissesse Belinda Bencic. C'est quand même pas n'importe qui, elle a gagné à Tokyo cette année. Alors, hélas, Bianca, bon, il lui manque des matchs dans les jambes, puis voilà. Mais elle s'améliore de mieux en mieux. Alors, les favoris chez les hommes, Djokovic, Medvedev, Nadal, Zverev et Alcaraz sont toujours là et ils sont en troisième ronde. Et chez les dames, la Polonaise numéro un mondial, Świątek, Sabalenka, Badosa et Pegula tiennent la route pour le troisième tour aussi. On a vu Sakkari tomber, qui est quatrième tête de série. Alors, écoutez, il y a toujours des surprises en Grand Chelem, hein, parce que les gens sont plus motivés, ils sont plus... c'est un Grand Chelem.
Mais c'est ça, les têtes tombent, tu te dis « waouh ».
Oui.
C'est ça le tennis.
Alors, c'est ça le tennis.
C'est un sport individuel, c'est pas un sport de groupe.
Et qui a évolué par rapport à une dizaine d'années où les meilleurs tenaient tout le temps.
C'est
là, il y a des surprises,
c'est
tout
fini.
D'un coup, les jeunes sortent de nulle part, puis ils sont là.
Oh là, hein? J'aime ça, de nulle part.
De nulle part. Ça sort des qualifications des fois, hein, et puis ils sont là, ils sont au quatrième tour, qu'est-ce qu'il fait là, c'est qui ? Ok, c'est ça. Tant mieux, c'est bien. Alors, Joe Wilfried Tsonga nous a dit adieu. Alors, il a tiré sa révérence à Roland-Garros, s'inclinant face au Norvégien. C'est pas n'importe qui quand même. Casper Ruud, qui est dans le top meilleur de terre battue, au terme d'une intense bataille de 4 manches serrées. Il y a presque cru, le Français,
oui.
Alors de 37 ans. Il avait annoncé sais que c'est à cause de la pandémie qu'il n'a pas pris sa retraite. Il devait la prendre avant la pandémie, il a dit.
Oui.
Mais la pandémie a fait en sorte que, bon, il voulait le faire devant public et ne pas dire adieu devant un terrain vide, alors sans spectateur. Donc, il a attendu et de le faire chez lui, en France. C'est ce qu'il a fait. Donc, il a déclaré lors de cet adieu très émotif, « C'était de la pure folie aujourd'hui. Je n'aurais pas pu demander un meilleur scénario à part le fait que j'aurais pu gagner. » Alors, son gars, rappelons-le quand même, a une très belle carrière, 18 titres en carrière de ses 18 ans. Il s'est hissé au 5e rang mondial quand même, il s'est dans le top 5. Hein,
C'était un robuste à l'époque.
Hein. Oui. Puis spectaculaire, il est très explosif aussi. Hein.
Oui.
Et il a gagné les plus grands, hein, Djokovic, Nadal, Federer, qui étaient à leur top meilleur à ce moment-là. Hein. Donc,
oui.
Ils étaient au mieux de leur forme, donc c'est déjà
Joe Wilfried,
le moitié congolais, le moitié français.
Oui, toute la famille était, tout ça, sa maman et autres, là, toute sa famille était, son père, tout le monde était
sous lui. Ils ont fait un très bel hommage, honnêtement, c'était très bien fait.
Il le méritait.
Oui, par le français. D'ailleurs, tous ses coachs, depuis qu'il est petit, s'est mis à pleurer. Son coach, le premier, quand il avait 9 ans, est rentré. C'est le premier qui est rentré. Hein. Alors, c'est spécial de voir ça.
J'ai vu les images, là, j'étais en émotion. Quel bel hommage.
Oui, moi aussi, j'ai pleuré. Hein. J'ai eu des larmes qui ont coulé.
Ouais.
Alors, et dans le top 10, pendant, il a été quand même dans le top 10, Fulgence, 260 semaines. C'est extraordinaire. Hein. Alors, voilà, c'est un des meilleurs français quand même qu'ils ont eu.
Oui, c'est pas donné à tout le monde.
C'est pas donné. Gilles Simon, qui lui aussi hein, va faire sa retraite, il a gagné aujourd'hui son match. C'était fabuleux. Il a gagné son match aujourd'hui en trois manches. Un vétéran, Gilles Simon. Hein.
Ah oui.
Il lui aussi, sur terre battue, est incroyable. Et bien lui aussi, il a dit qu'il annonce bientôt sa retraite. C'est son dernier Roland-Garros, apparemment. Alors, les Français sont en train de quitter la scène du tennis. Il est quand même, rappelons-le, le Français, donc son gars, qui a eu le plus de victoires en Grand Chelem, soit 121 victoires. Alors, adieu et à bientôt, le meilleur t'attend de son gars.
Gaël, mon fils, il est encore là, lui qui sera bientôt papa.
Il est encore là. Alors, on passe maintenant à Wimbledon. Hein. Je vous avais dit il y a deux semaines déjà, hein, que Wimbledon avait pris la décision d'exclure les Russes et Biélorusses pour sauvegarder leur sécurité, tout ça. Et l'ATP, qui était très en colère, l'ATP, la WTA, a pris la décision dans ces cas-là de les laisser jouer, mais de ne compter aucun point. Alors ça affecte énormément les joueurs. C'est le bruit de couloir qui est le plus dans les coulisses de Roland-Garros en ce moment, à ce qui paraît. Les joueurs n'arrêtent pas de parler de ça.
Mais de ne pas tenir compte de leurs points.
Et pour personne, pas juste pour les Russes. C'est-à-dire que de Djokovic jusqu'au dernier centième, ils n'ont pas de points cumulés à Wimbledon. Alors ça va affecter énormément de monde, à ce qui paraît que même Djokovic pourrait perdre sa première place à cause de ça. Alors les joueurs, c'est pour ça que j'ai dit, ils en parlent beaucoup dans les couloirs, ils sont fâchés de tout ça.
Mais ils vont tous boycotter, est-ce qu'ils vont aller jouer ?
Mais il y en a qui ne vont pas y aller, mais ils y vont tous pour le prestige, parce que c'est Wimbledon, parce qu'il faut être là. Alors ils vont y aller, même sans gagner de points. Donc c'est particulier, il faut suivre ça de proche d'ici à Wimbledon, c'est intéressant. Alors maintenant, je passe à l'athlétisme.
Oui.
Ali, je vous avais promis que moi j'aime l'athlétisme, et toi aussi, et les auditeurs j'espère aussi, qui n'aiment pas l'athlétisme, je le dis souvent.
Tout le monde marche, tout le monde court.
Je vous ai dit que je vais suivre pour vous la Ligue de Diamants jusqu'à la fin de la saison. Et ben, ce week-end, ils étaient à Birmingham, en Angleterre, et nos Canadiens ont bien fait. Alors, le Canadien Aaron Brown a gagné l'or devant le Jamaïcain Johan Blake, ainsi que le deuxième Canadien est arrivé troisième, Jérôme Blake, aussi s'appelle-t-il, Blake, s'est emparé du bronze. Donc, c'est formidable. Quant à André Grasse, déception, il est arrivé quatrième.
Il n'arrête pas nos gars, hein.
Oui, mais André de Grasse, c'est la deuxième fois dans deux meetings qu'il arrive quatrième. Il faut qu'il travaille un peu. Alors,
Peut-être qu'il s'est laissé un peu aller. Hein.
Peut-être, il se repose un petit peu. Oui, il est en train de s'entraîner au fur et à mesure. Alors, le Canada a aussi grimpé sur la plus haute marche du podium, écoute bien, aux 800 mètres, avec Marco Arop, suivi du Français Benjamin Robert et de l'Américain Bryce Hopple. En son hauteur, nous avons aussi un podium avec Django Lovett de la Colombie-Britannique, qui a devancé, vous savez qui ? L'Italien médaille d'or. Je te rappelle, Fulgence, à Tokyo, celui qui a partagé la médaille d'or avec le Qatari.
Oui.
Je te rappelle, on avait parlé de ça. Eh bien, il a devancé Gianmarco Tamberi de 2 cm, très peu.
Il ne doit pas être content, Gianmarco, hein ?
Oui, il ne doit pas être content.
Il ne doit pas être content, là, sincèrement.
Oui, très compétitif.
Gianmarco Tamberi. J'aime bien son nom, hein ?
Gianmarco Tamberi.
Tamberi.
Alors, prochaine escale à suivre, donc c'est à Eugene, aux États-Unis, c'est près de chez nous, c'est ce samedi, 28 mai. Donc, vous pouvez trouver ça sur vos chaînes de télévision préférées. Alors, maintenant, on passe au soccer.
Quoi de neuf au soccer, au foot?
Hier soir, se jouaient les quarts de finale du championnat canadien, et qui était de la partie? Eh bien, le CF Montréal. Il a fait ses devoirs en se propulsant, figure-toi, en demi-finale, grâce non pas à Chouanière, comme c'était attendu, mais à l'explosion de Sunusi Ibrahim, le Nigérian, qui a inscrit, figure-toi, à tour de chapeau, 3 buts. Ils ont gagné 3-0 contre le Forge FC de Hamilton. Alors, il a marqué à la 14e minute, à la 22e et à la 89e minute, aidé par le même milieu de terrain, Matko Midlevich, donc lui aussi qui a eu 3 aides.
Tu sais comment on appelle ça? Tu sais comment on appelle ça? C'est le hat-trick.
Ah oui?
Oui, quand un joueur marque 3 buts.
3 buts, c'est le...
Voilà, c'est
le... Ils disent le tour du chapeau comme au hockey. Hein.
Oh non. Ça, c'est pas au soccer. Au soccer, on dit pas tour du chapeau. On dit c'est le hat-trick. Non.
Alors donc, les trois, donc, cette victoire montréalaise permet ultimement, en plus, de se qualifier pour la Ligue des Champions. Alors, l'équipe affrontera maintenant, attention, à la fin juin, le Toronto FC, c'est leur rival de toujours, dans la métropole canadienne. Surveillez ça. Et à l'international, n'oubliez pas, là, je te le dis, Fulgence, samedi, c'est la finale de la Ligue des Champions. C'est Liverpool contre le Real Madrid.
Ça va
tous
se
les amateurs de
ça
soccer.
Ça va se jouer où?
À Paris, au Stade de France.
Oh, ça va chauffer.
Alors, sans les Français.
Oh ouais. Ça...
Alors, ça
devait normalement se jouer à Saint-Pétersbourg, non? En Russie.
Je sais pas. Je pense que depuis février, je vous ai dit que ça se joue à Paris quand les Français ont été, ça y est, sont partis.
Voilà.
Là, il y aura pas
non
de
seulement
pour les Français à Paris.
Voilà. Et puis non seulement ça. Non. Ça devait de jouer en Russie, mais depuis qu'ils ont fait l'invasion de l'Ukraine, là, les gens ont dit non. On ne donne plus ces gens d'opportunités comme ça à la Russie pour se faire voir. Puis ils ont dit bon, on a trouvé un terrain neutre
faut
à Paris. Oui.
C'est samedi le 28 mai. Beaucoup de choses ce week-end. Hein, faites attention.
C'est un week-end bien chargé là, Myriam.
Et pour finir.
Oui.
Tu m'avais fait une demande, Fulgence. Hein. Tu m'avais dit, attention Myriam, est-ce que tu vas suivre pour nous la nouvelle équipe de basket de Montréal? Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit oui, je vais faire pour vous.
Qu'est-ce qu'il y a de nouveau?
Alors, ben, hier, c'était le premier match, Fulgence. Alors,
attends. D'abord, est-ce qu'ils ont pu constituer une équipe qui peut nous représenter?
Oui, elle est complète. Voyons, je l'ai dit quand même tout au long de la semaine quand
je me suis dit, bon, ben,
chef.
Je me suis dit,
oui,
bon,
ils vont former leur équipe.
Je me suis dit, pour l'instant, ils ont pris des gens par-ci par-là pour essayer de se débrouiller à l'entraînement.
Oui. Ils ont formé leur équipe.
D'accord.
Ils ont joué hier. Ils ont joué encore une fois contre Hamilton. Décidément, quand c'est pas Hamilton, c'est Toronto.
Oui.
Alors, ils ont joué. La nouvelle équipe a joué le premier match de son histoire contre les Honey Badgers. Ils ont malheureusement perdu, mais très serré avec la marque finale de 80-72. Ce n'est pas le résultat espéré, mais c'est de l'apprentissage, il faut quand même le dire. Et le positif, donc, ce n'était pas une défaite humiliante. Le score est serré. C'est le début et le lancement de la saison, donc de la Ligue canadienne de basketball qu'on appelle la LCBE. Alors, l'équipe de l'entraîneur-chef Vincent Lavandier a tout fait pour attraper en plus son retard de 15 points au troisième quart. Ce dernier a expliqué aux médias, on manque un peu d'agressivité dans notre finition et c'est peut-être lié un peu à notre hésitation. Lavandier répète qu'il souhaite instaurer un jeu collectif principalement axé sur le partage du ballon. Alors, selon les statistiques du match, c'est réussi. Maintenant, selon l'entraîneur, il faut saisir les opportunités au bon moment. Nous apprenons chaque jour avec notre équipe.
Comment tu les as trouvés? Est-ce que tu as vu le résumé du match?
Non, j'ai pas pu voir le match parce que j'étais occupée par le tennis, par le soccer.
D'accord.
Je peux pas tout faire.
Non. je te demande pas d'être partout là.
Ouais, je sais pas. Mais Isaiah Osborne, donc le joueur qui a été remarqué donc dans ce match-là, a enregistré 16 points, 3 rebonds et 3 interceptions. Donc il a souligné aux médias lui. Attention, les joueurs de l'Alliance n'ont eu que 9 jours de camp d'entraînement ensemble pour se connaître et apprendre les systèmes de l'entraîneur. Donc, il faut prendre ça en note quand même.
Oui.
9 jours, c'est pas beaucoup, hein. Alors, la prochaine rencontre de l'Alliance sera la première de son histoire à domicile. Et devine, c'est quand, Fulgence?
Dimanche.
Alors, je vous dis, un week-end chargé.
C'est bien chargé là, ouais.
À l'auditorium de Verdun, dimanche à 16h, hélas, il n'y a plus de place. Les guichets, tous les billets sont vendus.
Myriam, avant de te laisser partir, ce jeune Nigérian qui a fait le triplé, là, il vient d'où? Il vient de... depuis quand il est là? Je ne sais même pas.
Qui ça?
Au cœur, au football, oui.
Ah, on revient au football, là?
Oui. Depuis
le
quand
Nigérian?
Depuis quand il est là, lui?
Ça fait depuis le début de la saison, il est là.
Ok. Ouais, de toute façon, tu m'en veux pas, parce que de toute façon...
Il faut la regarder, elle a beaucoup changé, hein, l'équipe du FC Montréal.
Oui.
Il faut aller regarder un petit peu les nouveaux joueurs. Donc voilà, n'oubliez pas de voir le match. Je ne sais pas s'il est diffusé, je ne sais pas encore. Je n'ai pas vu ça programmé, mais ils vont finir. Si c'est joué, ça va jouer à Verdun.
Il y avait
Verdun, tout neuf.
Oui. Il y avait des fans, des supporters là, qui se plaignaient. Ah, un match, encore un match qui n'est pas diffusé. Encore un match non diffusé.
Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est
pourquoi
vrai.
Ils diffusent pas?
On a un problème de diffusion. Voilà. Je sais pas. Alors, et d'ailleurs, l'entraîneur, c'est ce qu'il dit? On aura besoin de partisans pour ce match, a laissé entendre l'entraîneur. Parfois, on dit qu'il nous faut un 12e homme sur le terrain. Nous, il nous en faut un 12e homme. Il nous le faut avec les 12 000 spectateurs ce dimanche à 16h. Voilà.
Merci beaucoup, Myriam.
Je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Bonne fin de semaine à toi.
Bonne soirée aussi. Bye. Ouais, bye.
The Devil Musical avec la complicité de Marshall McKellar, Waste My Time. Ouais, je parlais un peu de quelques nouveautés littéraires. Merci à Dimedia qui m'envoie tout le temps ces genres d'informations pour que je puisse en parler, informer nos auditeurs, moi aussi m'informer, pourquoi pas. Oui, dès le 31 mai, d'ailleurs aux éditions Anne Norac, avec Frétillant et Agile Jocelyn. Si oui, c'est l'auteur de Mon Oncle Jules, ici, qui d'ailleurs redonne vie à How I'd Seek. C'est un improbable héros Vandat. Vous voyez, Vandat, quand on parle de Vandat, je me rappelle bien, dans le loin de la ville, la vieille capitale, Je n'appelle pas ça une réserve. Bon, ben, y a des habitations. Je suis passé par là il y a quelques années. Comment cet illustre inconnu qui inspire la méfiance parmi les siens parvient-il à sauver sa nation de l'extinction et à changer le cours de l'histoire? Avec frétillant et agile, Jocelyn, si oui, donne vie à Ao Aitzik, un improbable héros Wandat. Et comment cet illustre inconnu qui inspire la méfiance parmi les siens parvient-il à sauver sa nation et l'extinction à changer le cours de l'histoire? Marionnettiste aguerri et fabuleux conteur, Jocelyn Sioui s'amuse à sortir de l'ombre des personnages colorés, plus grands que nature. Voilà. Et il est auteur de mon oncle Jules d'ailleurs, qu'il a adapté pour la scène. Sioui sait qu'il faut se méfier de l'eau qui dort. Ça, c'est quoi? Souvent on dit, comme dirait l'autre, les eaux dormantes sont les plus profondes. Hein? C'est ça. Alors, bienvenue Alison. Bon, ça que Francine Hamel qui manque à l'appel. Bon, cette étrange disparition et le grain de sable qui semble entraîner les autres avec humour. Descartes, G. Descartes. Ah, je me rappelle bien, celle-là, je l'avais. G. Descartes, Courtness. Les gens qui disent Courtness, et pourtant elle est francophone. Hein. Courtness, mais Courtness, K-U-R-T-N-E-S-S. A publié en 2019, bien, je me rappelle bien, chez l'instant. Je me rappelle de ce livre d'ailleurs que j'ai chez moi, très très intéressant. Est-ce que je l'ai eu en entrevue ici d'ailleurs, voilà, l'année passée, je me rappelle bien. Oui, elle propose dans Bienvenue Alison, une fin du monde aux étranges accents de béatitude et de délivrance. Francine Hamel, 54 ans, manque à l'appel. La ville d'Alma se met en branle à cette étrange disparition en plein cœur du Saguenay. Est le grain de sable qui semble entraîner les autres du village québécois à l'orbite terrestre d'ailleurs, quelque chose de presque invisible se tisse et se propage. Donc avec l'humour grinçant qu'on lui connaît, la romancière J.D. Courtness nous propose dans Bienvenue Alison une fin du monde aux étranges accents de béatitude et de délivrance. Elle est née à Chicoutimi d'une mère québécoise et d'un père innu de Matthew Watch, Julie Courtness, sous son nom de plume, J.D. Courtness, ouais, J.D. Publié chez l'instant même deux romans à lui et de la critique de Vengeance en 2017. Et puis Aquarium, ce livre-là, je l'ai chez moi d'ailleurs, très 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 beau livre, Aquarium, ça pour ceux qui l'ont pas. Et puis le nouveau qu'elle vient de sortir, allez-y vous le procurer, c'est déjà. Ce nouveau-là, lui, sera en librairie à partir du 31 mai 2022, c'est tout nouveau. Voilà. Et puis, bon, le premier auteur dont je parlais, Jocelyn, qui est comédien, dramaturge, marionnettiste, écrivain. Il est membre fondateur de Belles et Brutes dans Bande de théâtre. Et puis, il est aussi le fondateur et directeur du OUF, Festival of Castellier, un festival consacré aux arts de la marionnette. Je comprends ces gens. Et puisqu'on parle de littérature, je vais. Salon du. J'ai encore du temps, hein, Nicolas, si je ne me trompe pas. Ouais. Encore du temps. Je vais profiter pour parler en même temps du Salon du Livre de l'Abitibi, Témiscamingue. Je me rappelle bien ce nom, je n'étais pas capable de le prononcer il y a quelques années. Quand je l'ai entendu la première fois, j'ai dit Abitibi. Témiscamingue, ça va, mais Abitibi. Je trébuchais tout le temps, quoi. Mais non, j'arrive à le faire facilement, quoi. Qui aura lieu du 26 au 29. Aujourd'hui, c'est le 26. Hein. Ça veut dire que ça commence aujourd'hui. À l'Arena Frère Arthur Bergeron de Ville-Marie, qui va accueillir notamment M. Wenet, Annie Perrault, c'est quelques noms que je donne comme ça, Annie-Hélène Clich, Laure Morali, Nancy Vicaire, Philippe de Grosbois et Annie Boulanger. Voilà, quelles sont les heures d'ouverture? Ils sont retrouvables du milieu littéraire avec. C'est quand c'est les ouvertures au grand public? C'est aujourd'hui, jeudi, c'est de 18h30 à 21h. Voilà. Et puis demain vendredi 27 mai de 13h à 21h, samedi 28 de 10h à 21h et le dimanche de 10h à 16h. Les adultes, c'est pas aussi cher que ça, c'est même quand vous allez au bar, vous payez plus que ça les pintes de bière maintenant, adultes 8$. Alors pour aller s'instruire, se cultiver, j'appelle pas ça s'instruire, mais cultiver, pour aller voir les stands, rencontrer les écrivains, découvrir des nouveautés littéraires, c'est 8$. Les enfants de 12 à 17 ans, 4$. Et puis, on pouvait avoir un bracelet à 20 dollars. Ça va aussi. Tiens, donc, venez, allez-y les rejoindre là-bas à Ville-Marie. Alors, c'est un petit coup de jeunesse pour cet événement visant à faire la promotion du livre de la lecture en Abitibi-Témiscamingue. Tu vois, je n'ai même pas trébiché. En Abitibi-Témiscamingue. Donc, la présidente de la coopération, Ginette Vézina, qui souligne l'enthousiasme des administrateurs face à ce changement, un événement. Et l'événement change. Notre événement change, s'adapte et se transforme. C'est donc normal de se créer une nouvelle image et de se projeter vers l'avant. Voilà, c'est un couleur. Hein. Les couleurs insufflent du dynamisme. Il rappelle aussi que l'univers du livre en est extrêmement riche et varié. Genèse, policier, histoire, poésie, amour, fiction, etc., etc. Le livre bleu fait office aussi du trait d'union entre l'Abitibi et le Témiscamingue, et aussi un clin d'œil à leur région de lacs et rivières. C'est un beau défi que de créer l'image d'un événement fait comme le Salon du Livre. Elle aime beaucoup les résultats ludiques et l'idée des livres intégrés à la signature Salon d'Anaé où elle est. Voilà, ça ça a commencé aujourd'hui jusqu'au 29. Profitez-en pour ceux qui sont dans les environs, même ceux qui sont à Montréal, si vous avez envie d'aller découvrir des nouveautés là-bas, ce Salon du Livre qui démarre aujourd'hui, qui est ouvert au public à partir de 18h30 jusqu'à 21h, et demain samedi de 13h à 21h, vendredi, et samedi de 10h à 21h, et dimanche de 10h à 16h. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater, il faut en profiter. En profiter aussi à toute la famille, pour s'il y a des membres de la famille qui ne sont jamais allés à ce salon, si vous êtes dans les environs, n'hésitez pas, faites un petit saut là-bas pour pouvoir découvrir ce salon du livre là. Voilà. Alors, on va rester à l'écoute, hein, après la petite pause publicitaire, et je vais recevoir Jesse Mill qui vient nous parler de la 16e édition du Festival Transamérique, le FTA. C'est la co-directrice artistique du festival Transamérique. Voilà, très 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 belle programmation, très variée. Vous allez entendre, vous allez savoir plus quand elle sera avec nous après la petite pause publicitaire. Allez, à tout de suite.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Voilà, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, voilà, là c'est Escale 17-18 qui continue comme ça. L'invité est déjà au bout du fil. On va parler de la 16e édition du festival Transamérique. Il y a quelque chose de particulier cette année. Un clin d'œil aux afro-descendants des artistes de la diversité qui sont vraiment, vraiment mis en avant. Je me suis dit, on ne peut pas passer comme ça à côté de ce festival sans parler de ça. Pour cette 16e édition, Jesse Mill, qui est co-directrice artistique du festival Transamérique. Bon, alors, pour ceux qui ne sont pas encore allés sur le site pour voir toute la programmation, tout ce qu'on va se dire ici, vous allez retrouver ça sur le site du festival là-bas. Bonjour, Jesse Mill.
Bonjour, merci de m'inviter. Ça fait plaisir.
C'est moi qui vous dis merci parce que ça commençait déjà. Hein?
En effet, on a ouvert hier soir avec un magnifique spectacle de Kudu Sonikeku qui nous venait de Lagos au Nigeria.
Oui.
Et la salle était en feu parce que le spectacle était excellent, mais aussi parce qu'on était vraiment heureuse de se retrouver devant un parterre rempli, les gens pour la plupart démasqués, des festivaliers et festivalières qui avaient vraiment le sourire aux lèvres et le cœur au chaud de retrouver des artistes internationaux, parce que ça fait longtemps que les artistes n'ont pas pu entrer au pays.
Oui, c'est ça. C'est ça, voilà. c'est ça. Je ne sais pas, c'est votre parcours, c'est parce que vous êtes devenue la co-directrice artistique du festival que ce clin d'œil vous mettez de l'avant des figures phares du continent africain cette année. Dites-le nous.
D'où vient ça? c'est un travail qu'on fait à deux puis collectivement. Ma co-directrice artistique, Martine Denval, a vraiment esquissé ce projet de festival avec moi et toute l'équipe est derrière nous. Et en effet, on avait vraiment envie déjà de sortir un peu des réseaux peut-être plus habituels, sortir un peu du vis-à-vis avec l'Europe. Et l'Afrique, qui est un continent que nous visitons toutes les deux depuis un certain nombre d'années,
oui.
À travers des événements phares qui s'y déroulent.
Oui.
Martine Denval avait des liens avec un festival, par exemple, au Mozambique. Et moi, j'ai un petit faible pour les récréatrices. Le festival de Ouagadougou au Burkina Faso, où je suis allée très souvent depuis 2012.
Wow.
Et il y a plusieurs spectacles qui nous viennent de là cette année.
Oui.
Mais il faut dire aussi qu'une question qu'on s'est posée de manière plus large, c'était celle-ci. Qui sont les artistes, metteurs en scène, chorégraphes, qui sont les figures phares de ce continent et qui, quelque part, inspirent la nouvelle génération de créateurs-créatrices et qui font bouger les lignes de leur discipline. Et on a cherché à avoir un peu ces grands noms en tête pour les faire connaître au public d'ici.
Oui.
Et donc, quand on invite, par exemple, le chorégraphe de Lagos qui ouvrait le festival hier, ben c'est pas un méconnu. C'est une très grande figure artistique du continent et c'est quelqu'un qui roule sa bosse depuis très longtemps.
Quand j'ai vu le nom, je me suis dit waouh, vous avez pu dénicher ce monsieur-là.
Voilà, c'est quelqu'un qui tourne déjà quand même pas mal à l'international, mais
oui.
qui n'était pas encore venu ici
oui.
et qui, là, nous fait découvrir une œuvre, évidemment, avec une certaine virtuosité où les jeunes danseurs, danseuses ont une énergie folle, mais aussi qui plonge dans un bassin culturel auquel on a moins accès.
Oui.
Dans ce cas-là, la culture Yoruba, qui
oui.
est sa culture, qui est encore très vivante au Nigeria, peut-être un peu moins dans la métropole, mais tous les jeunes danseurs et danseuses qui ont travaillé avec lui et qui, eux, arrivent avec leur bagage de danse urbaine ou de toutes sortes de pratiques de danse contemporaine, se sont questionnés aussi sur leurs racines historiques, culturelles, en allant voir du côté des mythes, du côté des légendes, du côté ouais. de la spiritualité yoruba. Et ça, c'est rare.
Il y a tellement de légendes dans les cultures africaines. Mais c'est un grand monsieur quand même, Kudus Onikeku. Quand j'ai vu le nom, je me suis dit « wow ».
C'est un très grand monsieur.
Oui.
C'est quelqu'un qui, à Lagos, a aussi un lieu qui s'appelle le People Center,
oui.
qui est à la fois un centre chorégraphique, donc un lieu où est présentée la danse, mais où il enseigne aussi, où il forme des artistes, où il invite d'autres formateurs, mais c'est aussi un centre communautaire où les gens peuvent aller fêter, voire même se marier. Et pour lui, c'était vraiment essentiel d'avoir un lieu comme ça qui n'isolait pas l'art et la culture, mais au contraire, la plaçait au carrefour des rencontres sociales et créait par cela un lieu de rassemblement où toutes et tous se sentiraient légitimes et bienvenus.
Mmh.
Et ça, c'est des modèles vraiment intéressants que j'ai rencontrés aussi ailleurs sur le continent, des lieux, des festivals, des théâtres qui vraiment ont une manière de mobiliser la population et de créer un sentiment d'appartenance de sorte que on n'est pas du tout dans une culture qui s'adresse à une forme d'élite ou qui s'adresse aux expatriés, mais on est dans l'art qui est présenté vraiment avec générosité
oui.
et exigence pour tous et toutes.
Oui.
Et ça nous fait plaisir.
Oui, c'est ce que j'appelle l'art populaire.
Mm-hmm.
Oui, voilà. Alors, ouais, lui il est là jusqu'au 25, 26, 27, 28, jusqu'au 28. Hein?
Il est là jusqu'au 28, puis il reste rien, je crois, pour ce soir, mais par contre, il reste encore des billets pour vendredi,
oui.
des très bons billets d'ailleurs,
oui.
et des billets pour samedi à 15h. Ça, c'est plaisant aussi, on peut venir même avec des plus jeunes.
Oui.
C'est un spectacle qui dure une heure et demie et qui a une certaine profondeur, voire même une certaine, je dirais, noirceur au sens vraiment premier, parce que les danseurs danseuses s'enduisent de noir,
oui.
mais qui nous fait traverser tellement d'états de corps et tellement aussi de, je dirais, d'état de joie et de célébration. Qu'en mon sens, ça peut vraiment toucher comme tout le monde. Les gens qui vont voir du théâtre de la danse, mais les gens aussi qui n'y vont pas. Oui, des enfants, en tout cas, à partir d'un certain âge, s'ils sont capables de rester tranquilles une heure et demie,
oui.
Je pense qu'ils vont avoir plaisir à voir cette jeune distribution s'agiter, s'animer.
Mmh.
Et pour les amoureux de musique, on a sur scène deux musiciens vraiment exceptionnels qui mènent vraiment une performance là, qui, au fil de cette heure 30-là, nous fait voyager aussi à travers la vie, la mort, la réincarnation. On est en présence des ancêtres, on est en présence de créatures mythologiques. Je suis allée chercher les noms des musiciens parce qu'il faut vous les nommer. C'est Victor Adémos et Alatunde Obadjern.
Oui.
Et ces deux-là, c'est des grands noms aussi de la musique de Lagos.
Oui, oui.
Qui ont un répertoire très large, là, qui va de l'afrobeat à plein d'autres choses.
Ah ouais, ça, l'afrobeat qui parcourt le monde entier d'ailleurs actuellement.
Exactement.
Depuis quelques années, qui font danser, qui ont fait danser ces 10 danseurs et danseuses-là.
Voilà. Oui.
Voilà. Alors, on part. Oui, allez-y.
J'allais dire, ce qui est spécial aussi dans ce spectacle-là et qu'on ne voit pas souvent, deux choses, je vous les nomme. Premièrement, on est vraiment dans un spectacle de danse, mais il y a vraiment une histoire qui parcourt cette heure 30-là. On les suit dans les cycles de la vie, on les suit dans des situations urbaines, hop, et on bascule dans l'au-delà. Et ça, c'est la deuxième chose que je voulais marquer. On visite le royaume des morts d'une manière qui est vraiment unique dans un théâtre. On sait que les théâtres sont remplis de fantômes, mais il n'arrive pas si souvent qu'on se sente vraiment accueilli par ces fantômes-là.
Ça m'a
troublé.
Vous me donnez l'envie d'aller voir cette pièce-là. Avec Kudus Onikeku. Alors, on va parler un peu des traces de discours aux nations africaines. Felwine Sarr.
Ouais. Alors là, c'est vraiment un grand spectacle.
Du 3 au 5 juin, oui, c'est quelque chose. Ça, c'est la crème de la crème, ça.
Vous avez tout à fait raison.
Oui.
Felwine Sarr, donc grand penseur qui nous vient du Sénégal,
oui.
Qui s'est fait connaître avec son essai Afrotopia, qui offre un visage de l'Afrique plein de potentiel et de sources pour repenser l'avenir. Et il a écrit Trace, discours aux nations africaines, pour l'acteur Étienne Minougou,
oui.
Fondateur du festival Les Récréatrales à Ouagadougou.
Oui.
Étienne Minougou, c'est un homme d'un charisme exceptionnel qui tient la scène, mais d'une façon remarquable. Il est accompagné de Simon Winsey, qui est un grand musicien qui joue de la kora et de la flûte peul.
Oui.
Et dans cette pièce, l'homme qui est sur le plateau, un Africain, a fait le voyage de l'exil vers l'Europe. Il a découvert autre chose, l'Occident, et il choisit de revenir chez lui sur le continent africain et de s'adresser à la jeunesse de l'Afrique
aujourd'hui. Ne dites pas tout.
Ne
dites pas tout, s'il vous plaît, Jessie. Ne dites pas tout. Laissez les gens se déplacer. Il y a l'ombre de Nadia Beugré, cette Ivoirienne-là. Comment vous l'avez rencontrée? Comment vous avez connu son travail, découvert son travail?
Ça fait des années que Martine Denval et moi, on la croise dans différents festivals parce que Nadia Beugré, c'est une danseuse exceptionnelle. Elle a une énergie incroyable au plateau.
Oui.
Et c'est aussi une chorégraphe féministe engagée qui nous impressionne beaucoup.
Oui.
Et par son énergie dans ce qu'elle crée, mais aussi par la dynamique qu'elle met à Abidjan en retournant très souvent. Elle est installée en France, mais elle va à Abidjan pour travailler avec les jeunes, notamment les jeunes femmes, pour créer vraiment un goût de la prise de risque et une nouvelle génération de chorégraphes et de danseurs.
Je comprends. Quand vous avez dit une artiste féministe très engagée, c'est ce qui fait que la pièce, est-ce que c'est la déconstruction de la masculinité? Je comprends.
Incroyable. Elle a cinq danseurs au plateau qui font trembler la notion de masculinité, justement.
Oui. Les pauvres qui dansent avec, qui sont dans sa troupe, oui. Les pauvres mecs. Voilà, on va parler maintenant de M'appelle Mohamed Ali. Dieudonné Nyanguna avec Tatiana Zinga, ça c'est des Montréalais d'origine africaine.
Alors Dieudonné Nyanguna, lui, il est congolais et oui. Il n'est pas à Montréal, il est installé en France.
Il est installé en France.
Il a écrit ce texte pour, et je ne veux pas vous mêler, mais pour l'acteur qui joue dans Trace, Étienne Minougou,
oui.
Qui ressemble à Mohamed Ali. Alors à l'origine, la pièce était un solo pour un homme de théâtre qui ressemble à Mohamed Ali et qui vit en quelque sorte le même combat que lui dans son travail quotidien de résistance dans l'art.
Oui.
Là, la jeune compagnie La Sentinelle, Tatiana Zinga-Botao, Philippe Racine, Linz Dormstich,
oui,
décident de s'emparer de cette pièce-là et d'en faire un oratorio pour 9 acteurs, actrices afro-descendants qui ne se retrouvent pas souvent sur scène. Hein. Souvent, ils sont seuls, une personne noire, deux personnes noires dans les pièces. Très rare, sommes-nous à pouvoir voir une telle solidarité entre actrices et acteurs noirs sur un plateau.
Oui.
Et là, c'est un cri d'affirmation de leur voix.
Oui.
De la force et de l'importance de leur travail.
Oui.
Un spectacle qui est politique, qui est poétique. Et j'ai vu une répétition, c'est exceptionnel.
Oh, avec Fayol, Junior Jean, Anglèche Majeure, Maxime Monpérous, Vidmir Normil, Martin David Peters, Rod Lepit et Tatiana Zinga-Botao. Voilà, mais comment vous avez pu... Comment ils ont pu réunir toutes ces grosses têtes-là? Toutes ces...
En fait, ils ont d'abord fait une lecture au Théâtre de Katsu il y a quelques années.
Oui.
Et cette lecture a été tellement remarquable que le Katsu, déjà, leur a proposé de faire la pièce. Mais nous, on était là aussi et on a vu ça et on s'est dit, il faut que ça soit un spectacle qu'on présente au festival.
Oui.
Et je pense que ces acteurs-actrices sont vraiment heureux de se retrouver ensemble. Pour eux, c'est un privilège de faire partie de cette distribution-là.
Oui.
Et ils le savent qu'ils ont entre les mains quelque chose d'historique.
Génial. Alors, on ne peut pas parler de retrouver le public en salle sans parler des deux années qui sont passées où tout s'est passé virtuellement, où il y avait des problèmes de faire déplacer les acteurs, les groupes de danse de niveau international.
Tout ça se fait avec beaucoup, beaucoup d'efforts
oui.
et je vous dirais de démarches aussi sur le plan de la diplomatie et des instances gouvernementales pour arriver à avoir les visas qu'il faut puisqu'on a des gens qui nous viennent de 18 pays dans cette programmation.
Oui.
Mais je vous dirais quand même qu'on est revenu à une certaine normalité
oui.
et nous, ce qu'on défend dans notre projet artistique, c'est l'importance de la mobilité de ces artistes-là.
Oui.
On a besoin de s'oxygéner avec des créations qui nous viennent d'ailleurs.
C'est
On a besoin de sortir de nos zones d'influence et de comprendre ce qui est important ailleurs, comment se font les choses, où est ancré l'imaginaire mm-hmm. et comment on peut renouveler nos manières d'aborder la scène. C'est des univers qui sont essentiels.
Ouais, surtout après 2 années de version virtuelle, c'est pas évident.
Exactement.
Oui.
C'est vraiment unique que de vivre un spectacle éphémère qui chaque soir est différent et qui chaque soir se prête à une salle composée d'individus qu'on ne connaît pas, mais qui crée cette assemblée, ce village, j'ai le goût de dire, dans un temps court. Et ça, c'est vraiment unique. Ça a la saveur de quelque chose qu'on ne peut goûter sur le virtuel, dans le petit cadre qui délimite notre réalité en haut de la poitrine.
C'est vrai, quand vous arrivez à faire déplacer des artistes de 18 pays différents, on se dit, là, moi personnellement, du fond du cœur, je vous dis bravo, vous et à toute l'équipe. Et de nous faire découvrir ces artistes qui viennent de partout à travers le monde, des artistes internationaux et des artistes de chez nous ici, d'ailleurs, il faut le dire. Et puis, pour la dernière minute qui nous reste, Jessie, quel est le message que vous allez à lancer?
Quel est le message que vous voulez? Venez Transamérique, venez voir un spectacle, regardez le programme fta.ca et choisissez un moment que vous avez envie de découvrir et soyez curieux. La curiosité, c'est un moteur exceptionnel pour aller vers l'autre. Et je vous dirais, venez voir un spectacle et si vous ne pouvez pas, déplacez-vous pour venir à notre quartier général, entendre une conférence. Felwine Sarr, ce grand Sénégalais dont on parlait, il va être avec nous. Il va donner une conférence qui va vraiment porter sur son travail, justement, de réflexion sur les demains de l'Afrique. Venez à notre journée de l'eau, une journée autour de l'eau comme ressource. C'est samedi qui s'en vient.
Oui.
Venez à notre journée de la création et des langues autochtones. C'est le samedi 4 juin après. Et il y a beaucoup de choses quand même qui sont gratuites, qui sont accessibles. Et ça vaut la peine de se plonger dans ces univers-là. Ça nous transforme, ça nous rend plus forts et ça nous solidarise. On est ensemble là-dedans.
Merci beaucoup, Jessie Mille, co-directrice artistique du Festival Transamérique, 16e édition. Merci à vous, à toute l'équipe et au plaisir de vous réentendre pour un autre gros projet.
Avec grand plaisir, merci à vous.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Escale 1718 avec Fulgence Blas.
Alors, vous venez d'entendre la co-directrice artistique du Festival Transamérique, la 16e édition. Alors, je tenais à tout prix à parler à l'une des organisatrices, des co-directrices, directrices artistiques. Bon, ben, merci à Jessie d'avoir eu le temps, Jessie Mille, d'avoir eu le temps de nous parler de ça. Ça a commencé hier, c'est du 25 au. Voilà, alors c'est du 25 au 5 juin, si je me trompe pas, oui, c'est comme ça, c'est la date, c'est bien ça. Au 9 juin, du 25 août, depuis hier jusqu'au 9 juin, c'est la date. J'ai mélangé avec quelque chose d'autre. Allez-y, des artistes qui viennent de partout, 18 pays, hein. Ils ont fait déplacer, après deux années de version virtuelle, que c'est beau de pouvoir faire déplacer ces artistes un peu partout du monde, d'Afrique, du Brésil, d'Amérique du Nord, de l'Europe, d'Asie et autres, qui pour nous fait découvrir la manière de d'interpréter ou bien de faire vivre l'art de ces différentes régions du monde entier. Ça, je tenais à le dire. Merci à vous, les organisateurs, les responsables du Festival Transamérique pour cette 16e édition. Voilà. Continuer un peu dans le milieu de la littérature encore. Le multidictionnaire de la langue française Québec-Amérique de Marie-Eva de Villers, qui a été approuvé par le ministère de l'Éducation et pourra être utilisé dans les écoles du Québec. Ça, c'était hier. Je devais en parler hier parce que c'était sorti le 25 mai 2021. Hier, c'était le 25. Mais j'avais d'autres sujets à traiter. Je reviens là-dessus. C'est la référence du bon usage du français au Québec. Un mode d'emploi complet actuel de la langue française sur toutes ses facettes de consultation facile et rapide. Ce multidictionnaire, c'est un dictionnaire polyvalent d'ailleurs qui intègre dans un seul ordre alphabétique tous les renseignements utiles sur l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, la typographie, les difficultés, les conjugaisons, les québécismes et les interférences d'ailleurs entre le français et l'anglais et puis la correspondance. Il y a de très belles photos là-dedans. L'ouvrage contient aussi plus d'une centaine de photos et puis 76 modèles de conjugaison. Je me rappelle bien, l'année passée, on avait reçu en entrevue ici, cette grande dame. Ouais. Voilà. Elle a été chercheuse agrégée et a mis en œuvre la politique de 1990 à 2013, ouais, et mis en œuvre la politique de la qualité de la communication auprès des étudiants de l'école du HEC Montréal, bien sûr, une politique dont s'inspireront les autres établissements universitaires du Québec. Donc, pendant 23 ans, elle a dirigé l'équipe qui enseigne le français des affaires, l'anglais des affaires, l'espagnol des affaires, le chinois des affaires, et a répondu à plusieurs multiples consultations linguistiques au sein de l'établissement d'enseignement comme à l'extérieur. Merci, bravo à cette grande dame qui nous permet ici au Québec d'avoir notre propre multidictionnaire de la langue française. Pourquoi pas, il faut le souligner. Voilà. Est-ce que j'ai encore du temps? Je pourrais parler de quelque chose d'autre. 11e festival BD de Montréal, 27, 28, 29 mai. Voilà, en collaboration avec le Journal de Montréal, c'est bien sûr sur la rue Saint-Denis, entre la rue Saint-Denis et puis les rues Guilford et Roy. Ça, c'est, faut pas l'oublier. Ouais, j'ai encore quelques minutes, merci. Je peux aller avec ça. Allez-y, qui sera parmi les participants de cette 11e édition? Il y en a tellement, mais il y a quelques noms que je peux donner ici qui sont très bien connus. Julie Doucet, qui a eu le Grand Prix 2022 du Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême. On en a parlé ici à cette émission. Maxi Plot, l'association. Oui, et puis il y a qui encore? Christian Quenel. On a pris Écho Fauve, Angoulême aussi. Mégantique, Un train dans la nuit, texte d'Anne-Marie Cerny, Éco-Société, ça c'est la maison d'édition. Et puis à Michel Viau, Gislain, Duguay, Mac Guffin et Alan Smithy. La série aux éditions du Tiroir. Catherine Ocello, Symptômes Pao Pao. Et puis Sylvain Lemay, André Saint-Georges, Rouge Avril. Je n'ai pas dit Rouge Lèvres, Rouge Avril, Mécanique Générale. Et puis Charlotte Gosselin. Je prends feu trop souvent, Station T et Myriam Mal. Adieu triste, amour, pao pao. Ça, ce sont des grosses têtes qui seront là-bas à ce festival-là. 27, 28, 29 mai. Voilà, sur la rue Saint-Denis, entre les rues Guildford et Roy. Voilà, allez-y, profitez-en. Hein. C'est, aujourd'hui, c'est le 26, demain, c'est le 27, ça commence. Alors, sur quoi ? Je voulais parler un peu d'archéologie, mais le temps ne me le permet pas. Je reviendrai là-dessus demain ou bien la semaine prochaine, parce qu'il y a des gens qui ont été directeurs de grands musées, qui ont été complices de ventes d'œuvres d'art. Voilà, et ces gens comme ça, la police vient de mettre la main sur eux depuis après des années d'enquête. C'est pas évident, hein, des choses comme ça. Comme je m'intéresse aussi un peu à l'archéologie, je tiens à parler. On va en musique pour terminer en beauté cette émission d'aujourd'hui, cette journée pluvieuse là. Tim Cunningham, let's wait. Voilà, merci à toi Nicolas. Belle fin de semaine à toi, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, je dis merci à Myriam Larage et merci aussi à notre invité qui est venu nous parler de cette 16e édition du Festival Transamérique. Voilà, et puis merci à notre fidèle et à nos fidèles auditeurs qui nous suivent depuis le début de cette émission. On leur souhaite une belle soirée et puis bon, bah, pour espérer les retrouver demain sur Canal M à la même heure, dans le même studio. Et sur ce, tout de suite, voilà, je regarde tout de suite, Nicolas va me couper. Non, il ne me coupe pas. Je vous dis ciao et à demain.